Merci pour la confiance, pour apporter un message. Je suis un frère parmi vous, avec mes luttes, avec mes combats. On a parlé ce matin de la question de l'amour. Et je suis quelqu'un qui manque aussi d'amour, qui a besoin aussi que le Seigneur m'aide. Je suis quelqu'un aussi qui se bat aussi des fois avec l'orgueil. Voilà, on est ensemble devant le Seigneur. Je vais encore prier et puis on va avancer sur la question des projets. Ça sera un survol, on va voir certaines choses, ça sera certainement incomplet, mais peut-être que le Seigneur nous parlera tout de même à travers ces choses. Seigneur, oui, je vais te demander ta grâce, ton aide. Tu connais mon cœur, tu connais mon manque d'amour, tu connais, Seigneur, l'orgueil aussi qui y est lié. Voilà, Seigneur, ce matin, on veut tout simplement s'attendre à toi. C'est toi qu'on veut entendre, c'est toi qu'on veut voir. Tu es notre sauveur, nous t'appartenons. Notre Dieu, fais ton œuvre à travers chacun de nos cœurs, et que tu sois, Seigneur, honoré. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors, des projets. On va parler un petit peu des projets des hommes, quelques généralités aussi bibliques sur les projets. Et puis, on verra deux projets qu'a fait le roi David, qu'a établi le roi David. Et puis, on verra aussi une exhortation du roi David, et on terminera par le projet de Dieu. Une demi-heure, ça va? Ouais? Ok. Alors, est-ce que vous avez des projets? Je ne sais pas si vous avez des projets. Un enfant, il a des projets. Par exemple, il veut aller en colo cet été, il veut faire une partie de pêche avec son papa, ou il veut aller en vacances chez papy et mamie. Un adolescent, lui, il aimerait peut-être un scooter. Devenir footballeur professionnel, peut-être qu'une adolescente, elle aimerait devenir coiffeuse. En réalité, à tout âge, on a des projets. Un adulte, il se projette peut-être à travers une sortie, un nouveau lieu de vacances, peut-être une nouvelle voiture électrique, ou peut-être faire une pièce de la maison. On a des projets. Une personne âgée, elle a aussi des projets. Quelquefois, elle voudrait réunir tous ses petits-enfants pour un week-end ou un temps avec elle. Deux personnes aussi en responsabilité ont des projets. Le maire d'une commune peut vouloir une nouvelle salle des fêtes ou une nouvelle piscine municipale. Je crois que pas loin d'ici, à Puy-Guillaume, le maire a mis en place une nouvelle piscine. Un président aussi peut avoir des projets, une réforme pour le pays, un projet industriel. En fait, on est entouré de projets. Souvent, si on regarde bien entre l'enfant et le président, les projets que nous définissons sont à la hauteur de ce que nous pensons possible d'entreprendre. Vous n'avez jamais pensé envoyer une voiture dans l'espace. Ça vous semble impossible, mais pour Elon Musk, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'était lors du projet réalisable, et donc il a envoyé une Tesla dans l'espace. Il a réalisé son projet. Pardon. Un projet, nos projets, il me semble, sont définis comme quelque chose qui répond dans notre cœur, soit à une ambition, soit à un besoin. Il est rare, il me semble, c'est David qui parle, qu'un projet soit l'établissement d'un hasard. Les choses sont réfléchies, méditées, et viennent en réponse à une ambition, un besoin, un raisonnement. Quand on est au-delà, on est dans le rêve. Je vous propose qu'on regarde quelques généralités bibliques sur la question du projet et qu'on ouvre nos Bibles dans Proverbes au chapitre 16, les versets 1 à 9. Vous avez déjà eu un prédicateur avec un enfant dans les bras? Alors, Proverbes. Verset 1 à 9. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité. Et par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas. On tourne la page au Proverbe 19, le verset 21. Il est écrit « Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. » La Bible dit clairement « L'homme fait des projets. » Mais la Bible dit aussi « Le dernier mot, c'est pour l'Éternel. » Et tu peux penser que ton projet, tu peux raisonner qu'il est comme ci, comme ça, mais Dieu sonde le cœur, Dieu apprécie tes motivations. La bonne question n'est pas « c'est quoi le projet ?» mais plutôt « quelles sont les motivations ?» La bonne question n'est pas la taille du projet, mais est-ce qu'il est soumis à l'Éternel ? Je crois que ces proverbes nous interpellent sur nos projets actuels ou à venir. Voulons-nous prendre le risque de marcher seul ou contre Dieu, ou aimerions-nous que notre conduite soit agréable à Dieu ? Proverbe 16, verset 7, on a lu « Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. » Waouh ! Voulons-nous considérer la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu, mais aussi sa bonté ? La souveraineté. Notre Dieu s'appelle l'Éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il connaît le moment. Voulons-nous considérer l'autorité de Dieu sur nos vies ? C'est toi qui appartiens à Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Nous appartenons à Dieu. Il nous a acquis. Il nous a créés. Il nous a rachetés. Il nous a acquis. Et ce que je veux aussi considérer dans mes projets, la question de la bonté de Dieu. Il m'aime, il m'a créé, il sait ce qui est bon et il sait aussi ce qui est un piège pour moi. Je vous invite à lire deux projets du roi David. À la fin, il y aura des feuilles partout. Ça ressemblera à mon bureau. Deux projets du roi David. Le premier projet, dans 1 Chronique, chapitre 13, vous pouvez chercher dans vos Bibles, c'est la question où David choisit, souhaite ramener le tabernacle à Jérusalem. On lit dans 1 Chronique, chapitre 13, chapitre 13, les versets 1 à 14. Donc David a un projet. David tint conseil avec les chefs, commandant des milliers et des centaines, ainsi qu'avec les autres notables. Puis il adressa à toute l'assemblée d'Israël et il leur dit « Si vous le jugez bon, et si cela est dans le plan de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messages à tous nos compatriotes qui restent encore dans toutes les régions d'Israël. » ainsi qu'aux prêtres et aux lévites dans leur ville de résidence, pour qu'ils nous rejoignent. Puis nous ramènerons auprès de nous le coffre de notre Dieu, car nous ne sommes pas préoccupés d'aller le chercher sous le règne de Saül. Toute l'assemblée trouva cette proposition judicieuse, et l'on déclara qu'il fallait la suivre. David rassembla donc tout Israël, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à Lebo Hamat, pour faire venir le coffre de Dieu de Kiria Yéharim. David, avec tout Israël, se rendit à Baala, à Kiria Yéharim, dans le territoire de Juda, pour en ramener le coffre de Dieu. L'Éternel qui siège entre les chérubins et sur lesquels le nom par excellence a été invoqué. On chargea le coffre sur un chariot neuf après l'avoir pris de la maison d'Abinadab, Uza et Aïo conduisit le chariot. David et tout Israël exprimaient leur joie devant Dieu en chantant de toute leur force et en jouant sur des lyres, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Kidon, les bœufs firent un écart et Ouza tendit la main pour saisir le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Ouza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait touché le coffre de sa main. Ouza mourut là devant Dieu. David s'irrita parce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Ouza et il appela ce lieu Pérèth Ouza, brèche d'Ouza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de Dieu et il se demanda « Comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi ?» Il ne transporta donc pas le coffre chez lui dans la cité de David, mais il le fit déposer dans la maison d'Obed-Edom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois et l'Éternel bénit la famille d'Obed-Edom et tous ses biens. On va un petit peu plus loin, chapitre 15, versets 1 à 2. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il décréta « Seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. » Un petit peu plus loin, versets 11 à 15, David appela les prêtres Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaïa, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit « Vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites, purifiez-vous. Vous êtes tous les membres de vos familles pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés, selon la loi, de ce qui le concerne. » Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. Jusque-là. Est-ce que c'est un bon projet de ramener le coffre de l'Éternel à Jérusalem? Bien sûr que oui. Mais nous voyons que David, dès le départ, n'a pas choisi la bonne manière pour l'appliquer, ce projet. Il a le projet de ramener le coffre. Il s'entoure de ses conseillers, les chefs du peuple, et il a vraiment à cœur, il a vraiment le souhait que ce soit dans le plan de Dieu. David est zélé pour Dieu. Vous l'avez vu, il chante devant les tambours, il danse, mais cela ne suffit pas. Son souhait de soumettre le projet à l'Éternel devait passer par l'effort de chercher comment Dieu lui demandait de l'appliquer. David, qui va être stoppé par la mort de Ouza, va avoir peur de Dieu et remettre ce projet à plus tard. Le projet donc n'est pas une fin en soi, mais c'est la manière dont nous l'appliquons qui a beaucoup d'importance pour Dieu. Ainsi, David a appris que le projet, le zèle associé ne suffisent pas. Il est nécessaire de s'asseoir pour bien soumettre nos raisonnements à l'obéissance, à la façon dont Dieu nous invite à vivre le projet. Le frère nous a rappelé tout à l'heure pour les offrandes, de bon cœur. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a des besoins, oui, mais si mon cœur n'est pas OK, si mon attitude que Dieu me demande n'est pas OK, il vaut mieux pas que je le fasse. Le frère, ce matin, nous a rappelé la question de l'amour. Si nous nous réunissons ce matin devant Dieu pour chanter ses louanges, mais que nous ne choisissons pas de nous aimer les uns les autres, ni de l'aimer, notre Dieu, ça n'a pas de sens. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, vous connaissez ces versets. « Même si j'ai la foi pour déplacer des montagnes, même si je suis capable de donner tous mes biens aux pauvres, même si je suis capable de donner ma vie, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » L'attitude de notre cœur est plus importante, ou me semble très importante, que le projet. Sans amour, les choses n'ont pas de sens. Et pour David, ce n'était pas important pour Dieu, de ramener le coffre, mais comment tu vas le ramener ? Un autre projet de David, le projet de construire un temple pour Dieu. Je vous propose de lire un petit peu plus loin, chapitre 17, les versets 1 à 6. Donc 1 Chronique 17, versets 1 à 6. Lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, « Qu'en penses-tu ? J'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de l'Alliance de l'Éternel est logé dans une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, « Voici ce que déclare l'Éternel. Ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, jusqu'à ce jour-ci. Au contraire, j'étais dans le tabernacle, allant d'un emplacement à un autre. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné tout Israël, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ?» David demande au prophète, à l'homme de Dieu, d'examiner son projet, ses pensées. Vous vous rappelez, juste avant, dans le projet de ramener le coffre de l'Alliance, il demande à ses conseillers, ses chefs du peuple, il ne consulte pas les Lévites, il ne consulte pas les prêtres. Là, nous voyons que David a grandi. Il consulte Nathan, le prophète, et lui dit « Voilà, j'ai un projet. Je voudrais le soumettre à Dieu. » Et en fait, Nathan va répondre un peu rapido. « Vas-y, fais ce que tu as sur le cœur. » Mais Dieu va bien se servir de Nathan pour retourner voir David et lui dire « Non, ça ne sera pas ce projet-là pour toi. » 1 Chronique 28, versets 1 à 6, c'est David qui va parler, toujours de ce même projet. Versets 1 à 6. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les commandants des milliers et des centaines. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas ses conseillers, il les met devant lui, les administrateurs des biens du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Le roi David se mit debout et leur fit ce discours. « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'Alliance de l'Éternel et le marchepied de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs en vue de la construction, mais Dieu m'a dit, « Ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as fait couler le sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans ma famille pour être roi d'Israël et pour inaugurer une dynastie éternelle. » En effet, c'est la tribu de Juda qu'il a choisie pour conduire les autres. Dans cette tribu, il a choisi ma famille. Et parmi tous mes frères, c'est moi qu'il a élu pour me faire régner sur tout Israël. L'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. Puis il m'a déclaré, « C'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils. » Et je serai moi-même un père pour lui. » Versets 1 à 3, il y a le peuple qui est réuni, et David fait un discours, et il dit « J'avais un projet, et Dieu a dit non. Parce que je suis un homme de sang, de guerre. » David accepte le non de Dieu sur un projet qu'il avait. Mais en même temps, nous avons Dieu qui rappelle, versets 4 à 5, le projet que Dieu a établi à travers David. Il lui dit, « Ok, tu ne vas pas faire le temple, mais regarde ce que j'ai fait à travers toi. Regarde mon projet, tu étais un berger et je t'ai pris et je t'ai établi chef de mon peuple. » Et là, je pense que David y fait, « Waouh, tu as raison, waouh, j'ai peut-être pas besoin de faire tout ce que j'aurais sur le cœur. Mais en même temps, verset 6, Dieu ne méprise pas le souhait légitime et cohérent du cœur de David. Il dit, ton projet est bon. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils. Ce passage nous appelle, nous invite à accepter le nom de Dieu quand on soumet notre projet à l'Éternel. Je le remets à l'Éternel, mon projet. Je dois accepter le nom de Dieu. Je dois comprendre aussi et connaître ou reconnaître quel est le projet de Dieu pour moi. Et puis, je suis invité à mesurer sa bonté, sa grâce. D'une certaine manière, nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas d'être là, nous ne méritons pas d'avoir une jolie salle, d'être ensemble. Nous ne méritons rien, c'est Dieu qui donne. Nous avons besoin de mesurer sa bonté, sa grâce. David va écrire un psaume. Je vous propose qu'on le lise ensemble. Le psaume 131. C'est un petit psaume qui fait 3 versets. Je vous invite vraiment à les méditer chez vous. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de ma mère, comme un nourrisson apaisé. Israël, mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Je le relis parce qu'il est court. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Israël, mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. David exprime que pour rester tranquille et calme, à l'inverse d'être chargé et agité, pour ne pas être chargé et agité dans sa vie, il refuse de regarder à des projets trop hauts. Il refuse l'orgueil de son cœur. David exprime qu'en faisant ce choix, il a expérimenté, vécu, que sa relation avec Dieu était suffisante. Que de la même manière qu'un nourrisson peut être rassasié et apaisé dans les bras de sa maman, lui-même trouve ce dont il a besoin et la paix dans la proximité avec son Dieu. Imaginez un bébé qui a été allaité par sa maman. Il n'a rien besoin de plus. C'est rare qu'on voie après qu'il ait été suffisamment allaité qu'il se mette à pleurer. Il est plutôt bien, il a envie de dormir, même si ce n'est pas des fois endormi en têtant sa maman. David prend cette image et dit, voilà, je suis rassasié et apaisé parce que je suis devant toi, je suis près de toi, tu me suffis. Je n'ai pas besoin de projets en plus. Je n'ai pas besoin de mettre encore des choses devant moi qui vont m'agiter et qui ne vont pas me rendre tranquille. Et il en proposera, David, une exhortation pour le peuple qu'il dirige. Il dira, Israël, mets ton espérance en l'Éternel. Mets pas ton espérance dans des projets et des projets et des projets, mets ton espérance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Je vous invite à sauter dans le Nouveau Testament pour lire dans Éphésiens, chapitre 1, une appréciation du projet de Dieu décrit par Paul. C'est même plus qu'un projet, c'est le plan de Dieu. Éphésiens chapitre 1. La lecture est un peu longue, elle va faire 11 versets. Je vous demande d'essayer de vous concentrer sur ce qu'elle dit. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan, ce plan qu'il a fixé d'avance dans sa bonté. En Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Ce passage dit, entre autres, nous avons été comblés, remplis des bénédictions de l'Esprit qui toutes sont en Christ. Voilà le projet de Dieu pour nous. Comblés, remplis, rassasiés. Nous avons été choisis avant la fondation du monde pour être saints devant lui, avant que Dieu crée le monde. Son projet pour toi, c'est que tu sois devant lui saint. Nous comprenons le problème du péché. Et c'est ainsi qu'il nous a délivrés de la culpabilité. Il nous a pardonné nos péchés par Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes invités à le reconnaître et à célébrer la gloire de sa grâce. C'est ce que nous avons fait ce matin. Mais d'une manière permanente. Et son projet, c'est de réconcilier tout sous l'autorité de Christ. Réconcilier les hommes avec Dieu, mais les hommes entre eux. Tout soit réconcilié en Jésus-Christ. Vous avez été choisis pour lui appartenir, il est marqué, pour lui appartenir, et vous avez été scellés par son esprit en attendant la délivrance définitive du peuple que Dieu s'est acquis. Nous sommes d'accord, ce n'est pas le paradis sur terre. Mais nous avons reçu un acompte, l'Esprit de Dieu, et nous attendons quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il n'y aura plus ce combat avec les projets orgueilleux. Nous avons été scellés par son Esprit en attendant la délivrance définitive du peuple que Dieu s'est acquis. Je termine avec un dernier verset dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 22 et 23. Après quoi, je vous inviterai à un temps de silence et puis je prierai. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout et en tous. Je vous laisse avec une question pendant 100 ans de silence. Allons-nous chercher ailleurs ce qui peut nous remplir ? Allons-nous chercher ailleurs ce qui peut nous remplir ? Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout et en tous. peut prendre quelques minutes dans le silence. Est-ce que Jésus-Christ est suffisant pour toi? Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je laisse place à l'orgueil, je laisse place à des choix ambitieux qui m'emmènent dans des pièges, qui m'emmènent à être agité. Toutes les fois où dans ma vie je manifeste que tu ne me suffis pas. Mon Dieu, je veux te remercier pour nous avoir rappelé ce matin par David, Seigneur, combien il est bon d'être comme un enfant rassasié près de sa maman. Et que le bon projet, c'est le tien dans lequel tu m'associes. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté envers nous. Nous voulons te demander, Seigneur, ton aide pour que nous sachions soumettre toute idée, toute pensée, tout projet devant toi, pour comprendre, Seigneur, la manière dont tu nous invites à le vivre. Nous avons parlé des travaux dans ce bâtiment. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui vont s'investir, que, Seigneur, ça puisse être avec une belle attitude de cœur, une attitude qui t'honore. Que, Seigneur, ce bâtiment ne soit pas un objectif en soi, mais vraiment, Seigneur, ce qu'on peut y vivre. On a parlé des repas ensemble, des choses comme ça. Seigneur, vraiment ce qu'on peut vivre devant toi, qui t'honore. Seigneur, voilà nos vies. Te demandons, Seigneur, aussi que tu nous aides à accepter ton nom. Que nous sachions, Seigneur, être soumis à ton autorité, mais aussi mesurer ta bonté, ta grâce. Merci, Seigneur, aussi pour ton esprit que tu nous as donné. Qu'il puisse travailler encore nos cœurs aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.